L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est le nouveau nom de Radio Évasion. Mais L'EM, c'est toujours en direct à midi et en rediffusion à 18h. Et aujourd'hui, il est question de politique. Un mouvement politique, mais qui n'a rien à voir avec un parti. J'ai nommé les associations. En France, c'est un vaste univers, oui, avec 20 millions de bénévoles, 1 800 000 salariés. De la politique, oui, au sens où tous ces gens dont fait partie votre radio agissent dans le sens du vivre ensemble. Certaines associations sont moins politiques que d'autres, sans doute. Je pense aux clubs de sport ou aux groupes de bricolage, quoique. Et puis d'autres associations sont très engagées pour défendre des idées, comme la Ligue des droits de l'homme, des associations aussi mobilisées par l'écologie. Aujourd'hui, donc, nous recevons quelqu'un qui a une vue d'ensemble, qui préside le mouvement associatif de Bretagne. C'est Thierry Abalea. Et donc, le mouvement n'est pas né tout à fait avec la loi Valdec-Rousseau de 1901, mais presque. Bonjour Thierry.
Bonjour Véronique.
Quand est-ce que le mouvement associatif de Bretagne est né? Mais il ne s'appelait pas comme ça, je crois, en fait.
Voilà, bravo, ouais, tu en sais autant que moi.
J'ai révisé.
Bravo, voilà. Oui, ça s'appelait, initialement, ça s'appelait la conférence permanente des coordinations associatives. Alors, ce n'est pas très sexy, quoi.
Non, en effet.
Et donc, c'est devenu, il y a quelques années, le mouvement associatif, mais sa vocation est restée la même. C'est-à-dire que, comme tu le disais, l'objet même du mouvement associatif, c'est de représenter et d'être le porte-voix de l'ensemble des associations en France, et pour nous, Mouvement Associatif de Bretagne, pour les 80 000 associations bretonnes.
Oh, c'est fou, 80 000.
80 000, c'est énorme. Hein, ouais. On considère que à peu près un tiers des Bretons sont engagés bénévolement dans une association, et puis par ailleurs, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Breton, il n'y a pas un Finistérien, il n'y a pas un habitant du Fou ou de Brest qui, dans son quotidien, ne bénéficie pas des services rendus par les associations, parce que, comme tu le disais justement, c'est hautement politique, le fait associatif, mais c'est hautement politique dans le sens de la chose publique. Et qu'il n'y a pas un endroit de notre quotidien, de notre naissance à notre mort, où on ne côtoie pas, on ne rencontre pas des associations et où des bénévoles, d'une manière complètement désintéressée, s'engagent dans leur quotidien pour venir en soutien avec leurs concitoyens. Voilà ce qu'est le fait associatif originellement et ce qu'il est encore aujourd'hui en Bretagne comme en France. C'est une liberté fondamentale, effectivement marquée dans le marbre depuis 1901, mais qui existait déjà bien avant, hein, qui est le droit pour tout un chacun de s'associer avec qui il veut, comme il veut, de la manière dont il le veut, sans avoir à en référer à quelque autorité que ce soit. Et contrairement à ce que l'on entend des fois, l'association 1901 qui fait le choix, enfin les personnes qui s'associent et qui font le choix de se constituer en association déclarée, ça n'est qu'une simple déclaration, c'est-à-dire que ça n'est qu'une information donnée à l'autorité administrative qui est de dire « Monsieur le préfet, nous vous faisons savoir qu'en date de ce jour, nous avons décidé à 2 ou à 3 000 de nous constituer en association, point barre. » Et le préfet n'a pas d'autre possibilité que d'acter et d'enregistrer cette déclaration.
Oui, il ne donne pas une autorisation.
Il n'y a pas d'autorisation administrative à se constituer en association.
Et quand il y a une dissolution, c'est pareil, c'est juste administratif. Une dissolution, c'est supprimer des registres, par exemple, parce que la préfecture a constaté qu'il n'y avait plus de vie de l'association, mais c'est tout, quoi.
Alors ça non plus, ce n'est pas possible et ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on dit souvent et qu'on entend souvent qu'il est difficile d'avoir une comptabilité très précise du nombre d'associations, parce que on sait tous qu'il y a des associations qui se sont constituées à un certain moment et qui n'ont plus de vie réelle. Mais il n'y a aucune autorité administrative qui puisse dire cette association n'existe plus. Et donc, on a cette espèce de monde associatif un peu en sommeil, mais c'est un gage de liberté, d'une part, et puis c'est opérationnellement, moi je connais de plusieurs associations qui sont restées en sommeil pendant de nombreuses années et qui ont renaît de leurs cendres.
L'accord, celle des radios, c'était le cas.
Pour faire un petit peu de publicité pour des gens que je connais bien, pour la deuxième année en 2024, il y aura un festival du côté de Loquet Fraise qui s'appelle le Foutu Festival, qui a fait sa première édition l'année dernière en 2023 et qui est issu d'une association qui était en sommeil depuis de longues années. Et puis des habitants autour de Loquet Fraise ont décidé de réinvestir cette association, de la faire revivre à travers cette initiative de festival. Et ça, c'est quotidien des associations qui sont en sommeil pendant longtemps et qui renaissent de leurs cendres.
Et donc, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça peut aider quand on veut demander par exemple une subvention, savoir que l'association existe depuis longtemps, ça aide plutôt que de recréer une nouvelle association. C'est
exactement,
ça aussi.
Exactement.
Mm-hmm. Ouais. Et oui, donc c'est un monde mouvant mais très très animé. Enfin, en Bretagne, est-ce qu'on est la première région en termes du nombre d'associations, d'engagement
Alors non, on a un certain nombre de particularités en Bretagne. On a une belle densité à la fois de création d'associations tous les ans et un tissu et un maillage associatif important. Alors après, c'est vrai qu'en Bretagne, par exemple, le premier secteur associatif, mais c'est aussi vrai en France, c'est les associations sportives. Et en deuxième secteur, c'est les associations culturelles. Et en Bretagne, on a la particularité d'avoir une forte densité d'associations culturelles. À la fois parce que nous sommes sûrement une population ou un peuple breton très culturel et très cultivé, mais qu'on a aussi une volonté d'affirmer notre particularité culturelle. Et donc toutes les associations autour de la langue bretonne, de la culture bretonne, créent une dynamique associative particulière en Bretagne, à côté des acteurs traditionnels de la culture, du spectacle vivant,
parce que la culture, c'est vaste.
La culture, c'est vaste. Oui. Voilà.
À la limite, la radio, nous, on est une association culturelle, même si on est aussi une association d'éducation
Exactement.
Populaire. Enfin, il y a ça aussi, l'éducation populaire a dû renforcer ce mouvement associatif, non
Complètement. C'est un secteur important, historique, déjà. Et donc, on retrouve au sein du mouvement associatif le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, dans lequel on retrouve les grands réseaux que tout un chacun connaît, la Ligue de l'enseignement, la Fédération des centres sociaux, Léo Lagrange, les FFMJC. Et c'est effectivement à la fois des acteurs importants dans le quotidien de tout un chacun, les associations de jeunesse, d'éducation populaire. Et c'est aussi une densité, un maillage d'associations locales affiliées à ces fédérations d'éducation populaire qui sont importants et qui vraisemblablement, enfin même clairement, structurent nos communes, les plus rurales, mais aussi nos quartiers urbains et nos villes. Donc les acteurs de la jeunesse et d'éducation populaire sont effectivement à la fois des acteurs importants, mais aussi des thermomètres importants de comment va ce pays socialement dans les zones rurales, mais aussi dans les quartiers urbains, dans les quartiers dits sensibles ou dans les quartiers prioritaires de la ville.
Et justement, il y a des tendances. Enfin, en Bretagne, par exemple, est-ce qu'il y a plus d'associations qu'avant, moins ? Enfin, est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années ?
Alors, d'une manière générale, en France comme en Bretagne, le nombre d'associations qui se créent est toujours en augmentation. Donc il y a tous les jours de nouvelles associations qui se créent. Il y a évidemment des associations, on le disait tout à l'heure, qui sont en sommeil, mais le maillage associatif est toujours très, très important et très dense, y compris en création. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire des fois, la majorité des associations en Bretagne sont des associations relativement jeunes. On a des fois l'impression, avec un certain nombre de...
Alors, il y en a des monstres qui ont 50 ans ou 60 ans.
Le Secours populaire, la Ligue de l'enseignement, qui sont dans notre paysage historique depuis très très longtemps. Mais la réalité du fait associatif, c'est d'abord que la majorité des associations, c'est des petites associations avec relativement peu d'adhérents et de bénévoles.
Et pas de salariés, souvent.
Et 90% des associations sont sans salariés et ne reposent que sur la bonne volonté du bénévole. Et donc, les un peu plus de 100 000 emplois salariés associatifs en Bretagne sont constitués par 10% des associations seulement. Donc 90% des associations se dépatouillent. La réalité aussi de la vie associative au quotidien, c'est des budgets annuels qui sont de l'ordre de 10 000 euros, de quelques milliers d'euros. Ouais. Donc là aussi, on a parfois des images, les Restos du Cœur, d'une grosse association qui brasse beaucoup d'argent. La réalité du fait associatif, c'est quelques dizaines d'adhérents qui se réunissent autour d'une cause commune, d'un intérêt commun, et qui vont brasser quelques centaines ou quelques milliers d'euros tous les ans.
Le mouvement associatif représente les associations loi 1901. Est-ce qu'il existe d'autres types d'associations qui dépendent pas de la loi 1901 ?
Ouais, alors, comment répondre à cette question ? La loi de 1901, je suis obligé de revenir sur la loi 1901. La loi de 1901 n'est pas une loi qui ne reconnaît que les associations déclarées. La loi de 1901 est une loi qui dit que tout citoyen a le droit de s'associer avec qui il veut et que ça lui donne une existence en tant que telle. Donc ça veut dire que la loi de 1901 reconnaît ce qu'on appelle l'association de fait ou ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus des collectifs informels qui sont protégés par la loi de 1901. Et dans la loi de 1901, il faut attendre l'article 5, le cinquième article de la loi, pour permettre aux associations qui le souhaitent de pouvoir effectivement se déclarer pour posséder l'identité juridique. Et donc pouvoir ouvrir un compte en banque et avoir le statut de personne morale à part entière. Mais pour autant, la loi d'abord dit « chacun s'associe et se réunit quand il le veut ». Sans avoir à en référer à qui que ce soit. Et ça, c'est légal. Donc ça veut dire que quand on dit aujourd'hui que seules ne comptent que les associations déclarées avec des statuts déposés en préfecture, c'est une entorse qu'on fait à la loi. La loi dit, je suis... Et aujourd'hui, si tu veux, on pourrait considérer que tous les deux, nous formons une association temporaire l'espace d'une demi-heure.
Exactement.
Et on a le droit de le faire.
Et les associations, alors cette culturelle, enfin religieuse, est-ce qu'elles ont le statut 1901 ou est-ce que c'est autre chose ?
Alors, la loi de 1901 est donc d'abord une loi qui statue sur le droit associatif, mais c'est aussi dans de nombreux articles une loi qui va, en 1901, baliser le droit des associations cultuelles. Et ce qui est intéressant dans ta question, c'est que cette loi de 1901, elle fait partie en fait d'un panel d'ensemble avec notamment la loi sur la liberté de la presse, la loi sur les libertés syndicales, tout ça c'est à la même époque. Et il y a la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État qui repositionne clairement la place des associations cultuelles. Et donc on a là une boîte à outils dont la loi de 1901 qui permet effectivement à la fois de sacraliser le droit de réunion et d'association pour le citoyen et qui en même temps, par d'autres lois, va recadrer les capacités, les pouvoirs des associations dites cultuelles. Parce que avant ça, et donc on est en 1901, la Troisième République c'est 1870, et c'est la Troisième, et dans la réalité c'est un peu la Première République en termes d'installation des valeurs républicaines et de la démocratie. Et donc on a pendant toute cette période-là, de 1870 jusqu'en 1905, et puis après au-delà, une démocratie et une république qui s'installent. Et auparavant, le fait du citoyen était essentiellement sous tutelle de l'Église chez nous. Et donc, on avait effectivement des associations cultuelles, de caritatives, de soutien, les hôpitaux, le service social, la prise en charge des enfants abandonnés, qui se faisaient par les associations liées et dépendantes de l'Église, quand ce n'était pas directement d'ailleurs par le clergé. Et donc, la République s'installant, elle a voulu séparer les pouvoirs de l'Église et de l'État et a permis d'instituer effectivement une liberté publique qui était le droit des citoyens de s'associer pour faire ce que faisait auparavant seul le clergé, qui dorénavant va devoir partager avec des initiatives de citoyens républicains.
Et on voit d'ailleurs que cette question, alors religieuse mais différemment, ressurgit dans la vie associative contemporaine et donc crée, alors cette fois, il y a des menaces, des dangers pour la vie associative, c'est ça ? Comment on pourrait dire ça ?
Oui, parce que, comment dire ça ? Historiquement, le pouvoir exécutif, donc les gouvernements, le pouvoir administratif, l'administration, vit toujours très mal quand le législateur octroie un certain nombre de libertés en écartant la capacité de contrôle du pouvoir administratif. Et du coup, à chaque fois, et ça a été vrai par exemple pour la sécurité sociale dans un autre domaine, à chaque fois, quand il y a une auto-gestion par le citoyen de ses propres affaires, le pouvoir exécutif n'a de cesse que de trouver les moyens de contrecarrer cette liberté-là. Et donc sur la loi de 1901, c'est effectivement le législateur qui garantit le droit des citoyens. Et du coup, le pouvoir administratif, depuis 120 ans maintenant, est en permanence en réflexion sur comment il va quand même pouvoir avoir un contrôle administratif sur ce que fait le citoyen. Et les deux outils que l'État a pour ça, concernant les associations, c'est d'abord l'outil fiscal, et donc de toujours mesurer si les conditions de la non-fiscalisation sont respectées. Donc,
si on est d'intérêt général, c'est ça.
Est-ce qu'on ne fait pas concurrence avec le marché? Donc tout ce que les associations connaissent au quotidien, qui est de dire est-ce qu'on échappe encore ou pas à la TVA ou est-ce qu'on risque d'être assujetti à la TVA.
Ah oui, il y a ça. Et puis sinon, il y a le fait d'être intérêt général. C'est-à-dire que quand on donne à l'association qui est d'intérêt général, on a une défiscalisation.
Voilà. Sachant que cette question de l'intérêt général, dans une vraie démocratie, je dirais, devrait être défini par l'ensemble des citoyens et pas simplement par l'appareil administratif. Là, c'est l'appareil administratif, qui plus est l'appareil fiscal, qui décide seul ce qu'elle considère être de l'intérêt général. Donc, ce qui est un peu de l'abus de pouvoir démocratique.
Donc, il y a l'outil fiscal et l'autre outil.
Et l'autre outil, c'est l'outil purement administratif et c'est notamment par le jeu des agréments. C'est que l'État dit, nous, on veut bien vous aider financièrement, mais à condition que vous rentriez dans le cadre administratif que l'on va vous donner, et ça va faire l'objet d'une labellisation, d'un agrément. Alors le premier, le plus connu peut-être, c'est la reconnaissance d'utilité publique, et c'est l'État qui décide à un moment de dire si telle association, au-delà de l'intérêt général, répond à une mission d'utilité publique, et si c'est le cas, ça va permettre effectivement à l'association de bénéficier et de sécurité fiscale et de financement possible.
En plus de celles qu'on a intérêt général, c'est ça.
Enfin, oui, voilà.
Ça fait des aides en plus. Quoi,
c'est ça, voilà, tout à fait. Et puis l'autre outil, toujours administratif, ce sont tous les agréments notamment d'éducation populaire, assez connus du monde associatif, mais aussi des agréments environnementaux pour les associations, où c'est chaque ministère qui va décider des associations qui lui semblent dignes de confiance et qui méritent du coup d'être soutenues comme telles. Et on voit bien que cette logique-là, aussi louable soit-elle, parce qu'elle permet, les aspects positifs de ça, c'est que ça permet de co-construire avec le pouvoir administratif et avec l'État en particulier, un certain nombre de politiques publiques en matière d'éducation, l'éduc-pop, en matière d'environnement, sur la protection de la biodiversité. Mais en même temps, ça permet aussi au pouvoir administratif de définir les critères qui fait que telle ou telle association est respectable en termes d'avis qu'elle va pouvoir donner ou d'action qu'elle va pouvoir mener.
Parce que par exemple, l'association Anticor qui lutte contre la corruption, notamment des politiques, a perdu un agrément. C'est quel agrément elle a perdu et en quoi c'est un problème?
Oui, elle a perdu en fait un agrément du ministère des Finances et du Budget qui lui permettait, et de la Justice, pardon. Et de la Justice, qui lui permettait en fait de porter en des dossiers à la connaissance de la Justice sans avoir à passer par le truchement du procureur qui, dans notre pays,
décide,
est celui qui va décider si tel ou tel grief, plainte, demande d'un citoyen ou d'un contribuable est recevable, et c'est lui qui va décider de transmettre ou non le dossier à la Justice. Donc des fois, on a des dossiers qui sont classés sans suite par le procureur. L'agrément dont bénéficiait Anticor lui permettait de saisir en direct la Justice sur un certain nombre de faits pour obliger du coup la Justice à engager une enquête d'éventuelle corruption. Le fait de perdre cet agrément lui enlève ce pouvoir-là. Et donc, elle se retrouve effectivement aujourd'hui entravée, en tout cas, dans sa capacité à agir.
Et alors, autre outil de contrôle qui est né récemment, et ça va être le sujet de la suite de cette émission, c'est le contrat d'engagement républicain. On parle d'un outil de contrôle, en fait. Quel était le but? Pourquoi il a été mis en place déjà au départ?
Ça fait 2 ans que ça existe, le contrat d'engagement républicain. Alors, si nos auditeurs sont responsables ou bénévoles dans une association, ils l'ont fait peut-être sans le savoir, oui. mais ils ont signé le respect du contrat d'engagement républicain, mmh. puisque c'est une obligation depuis 2 ans de signer ce contrat, qui n'a rien à voir avec un contrat, qui est en fait une contrainte ou une condition que pose l'État au simple fait de bénéficier d'une aide publique, quelle qu'elle soit. Pas simplement de l'État, mais aussi des collectivités locales. Et c'est une condition, donc ce n'est pas du tout négocié ni contractualisé. C'est pour ça qu'un certain nombre d'associations ont signé le contrat d'engagement républicain sans le savoir, parce qu'elles ont coché à un moment une case, et que si elles ne cochaient pas cette case, elles n'auraient pas leur subvention, d'où qu'elles viennent, y compris de leur mairie. Sachant que cette signature, avant de rentrer dans le détail du contrat d'engagement républicain, l'obligation de contractualiser, enfin de signer ce contrat d'engagement républicain, il vaut pour toute subvention. Et le terme juridique, enfin la définition de la subvention, c'est toute aide publique, quelle que soit sa nature. Donc on pense souvent, nous, dans notre quotidien, que la subvention, c'est simplement l'argent que l'on demande et qu'on reçoit d'une collectivité, quelle qu'elle soit. La réalité, c'est qu'une association qui ne demande pas de sous, mais qui demande à utiliser une salle municipale, qui demande à sa commune de pouvoir utiliser des tables et des chaises de la commune, qui demande à la commune de pouvoir occuper l'espace public pour tenir un stand d'information sur un marché, une fête, etc. C'est de l'aide publique et c'est de la subvention. D'accord. Et donc, si elle ne signe pas le contrat d'engagement républicain, elle devrait se voir interdire l'utilisation de l'espace public, des tables, des chaises pour la kermesse, de la salle municipale, mais aussi, évidemment, la subvention, et aussi, dont on parlait tout à l'heure, se voir retirer son agrément si elle a un agrément.
Et ça a été mis en place, ce contrat d'engagement républicain, pour une raison un peu particulière, enfin, oui. c'était notamment lié à la religion.
C'est ça, et une raison qu'on pourrait considérer comme louable. Hein. On est à une période où Samuel Paty a été assassiné. On est pas très loin des attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, hein, dont on fête la mémoire là, ces jours-ci. Donc on est dans un contexte un peu anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire, lié à des risques d'attentats islamistes importants. Et c'est à cette occasion-là que le gouvernement décide de proposer une loi qui devait être une loi contre le séparatisme religieux et une loi de combat contre l'islamisme religieux. Alors, vous allez me dire, à juste titre, qu'est-ce que vient faire le monde associatif dans
c'est
tout ça,
ça.
Eh bien, rien du tout. Sauf qu'à l'occasion de cette loi qui n'est pas restée loi sur le séparatisme, mais est devenue une loi confortant le respect des principes de la République, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur déjà à l'époque, et Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, décide d'y intégrer une obligation pour les associations de signer un contrat respectant cet engagement des valeurs de la République, pour la faire un peu court. Jusque-là, on pourrait se dire que pourquoi pas. Si ce n'est que la loi de 1901, donc ça fait 120 ans, un peu plus maintenant, avait déjà prévu, évidemment, qu'une association pouvait se constituer comme bon lui semblait, mais que la limite de l'existence d'une association était le respect des règles de la République.
Voilà,
et qu'on avait déjà assisté dans l'histoire de notre vie publique, sociale et politique à des associations qui s'étaient vues dissoudre parce qu'elles ne respectaient pas les lois de la République.
Et c'est arrivé encore récemment.
Pas forcément sous couvert du contrat d'engagement républicain. Oui, donc, dire en 2021... Dorénavant, les associations qui souhaitent une subvention devront s'engager à respecter les principes de la République. D'une part, ça n'apporte rien de nouveau parce que ça existait. Et en plus, à titre personnel, c'est pour le moins culotté parce que, objectivement et historiquement, bien avant 1901, ce sont les associations, ou en tout cas ce sont les citoyens réunis en association, qui ont été les garants de la République et des principes de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, L'éducation par l'école publique, les libertés fondamentales, les libertés publiques ont toujours été garanties par la mobilisation des associations. Simone Veil, je le dis souvent, en 1974, n'aurait jamais pu faire sa loi sur l'IVG s'il n'y avait pas eu le travail des femmes dans ce pays pour demander effectivement et revendiquer le droit à l'avortement. Et pour prendre un certain nombre de personnalités, notamment Gisèle Halimi, mais pas qu'elle, Simone de Beauvoir, etc., quand elle déclare à 483...
Oui,
je crois,
salope.
C'est ça, une pétition, ouais. Salope, c'est Charlie Hebdo qui titre comme ça, mais ouais. C'est bien avant 1974, et Simone Veil s'appuie sur cette force sociale montante depuis les années 60, pour pouvoir faire sa loi sur l'IVG. La peine de mort n'aurait jamais pu être abolie par Robert Badinter s'il n'y avait pas eu une mobilisation des associations. La question de la prise en charge du sida, des malades, mais aussi des familles, n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la mobilisation des associations. Donc globalement,
oui, donc ce CER
les associations
n'est pas...
revendiquent voilà. Le fait d'être les outils qui assoient les valeurs de la République et les valeurs démocratiques. Donc c'est un peu culotté que l'État vienne nous dire « Dorénavant, vous allez signer un contrat qui vous oblige à respecter ces valeurs-là, alors que c'est nous qui les avons mis en œuvre et qui les mettons en œuvre tous les jours. »
Et puis il y a eu des détournements en fait aussi, mais bon, on ne peut pas aller plus loin parce que là, l'émission se termine. Mais on va déjà inviter les gens aussi à écouter le débat qui avait eu lieu lors du dernier festival Longueur d'onde à Brest. Et en fait, ça avait porté sur ce fameux contrat d'engagement républicain et les menaces que ça pesait sur les associations. Et puis sinon, on refera des émissions avec le mouvement associatif.
Oui,
Thierry.
Très bien.
Merci beaucoup.
Excuse-moi.
À bientôt.